VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 15 novembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Bujumbura demande le remplacement du médiateur de l'ONU au Burundi. Refus du secrétaire général Ban Ki-moon.
Ouverture hier en Mauritanie du procès en appel de militants anti-esclavagistes condamnés à des peines de prison.
Le président du Sénégal, Macky Sall, est à Washington. Nous aurons sa réaction à l'élection de Donald Trump.
Toujours à Washington, le président Barack Obama se prononce sur M. Trump et ses vues avant d'effectuer le dernier voyage de sa présidence à l'étranger.
Les forces américaines et la CIA pourraient avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan, selon une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Divorce entre Bujumbura et le médiateur de l'ONU, Jamal Ben Omar. Le gouvernement burundais a demandé son remplacement. Des précisions de Jean-Roger Bion.
C'est dans une correspondance que Bujumbura l'a signifié à Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Le message est clair, plus question de continuer à traiter avec Jamal Ben Omar. Par conséquent, le gouvernement de Pierre Nkurunziza a demandé des consultations avec Ban Ki-moon et l'entrant Antonio Guterres pour désigner un successeur à M. Ben Omar comme médiateur au Burundi. Mais le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a affirmé que M. Ben Omar gardait toute la confiance du secrétaire général. Il a déclaré que M. Ben Omar reste en fonction. En juin 2015, son prédécesseur, Saïd Djinit, avait jeté l'éponge sur demande de l'opposition burundaise.
Le procès en appel de militants anti-esclavagistes mauritaniens condamnés à des peines de prison, notamment pour usage de la violence, s'est ouvert hier à Zouérat, dans le Nord, sous une sécurité renforcée, selon la défense et des témoins. Nani Talani.
D'après un des avocats de la défense, Maître Baoul Doumbarek, le procès a commencé en présence de tous les accusés que la cour a interrogés en début de séance. Puis les avocats ont soulevé des exceptions de procédure jugées suffisantes pour annuler le dossier. Ils ont insisté sur le flagrant délit pour lequel leurs clients sont jugés, qu'ils contestent, et les tortures auxquelles les prisonniers ont été soumis. La cour devrait se prononcer sur ces questions de procédure. Pendant ce temps à Paris, l'ONG l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, a déposé hier une plainte visant de hauts responsables mauritaniens accusés de torture à l'encontre de ces militants anti-esclavagistes qui sont au nombre de 13. Ces derniers sont accusés de rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. Ils avaient été arrêtés en juin-juillet pour leur implication présumée dans les violences à Ksar, un quartier dans le centre de Nouakchott, dont le déplacement forcé par les autorités le 29 juin avait provoqué des heurts entre des manifestants en colère et la police. Une dizaine de policiers avaient été blessés, selon les autorités. Ils sont jugés en même temps que sept habitants de ce bidonville.
Ici aux États-Unis, un juge du Minnesota a condamné à la prison trois Somaliens américains reconnus coupables de complot pour fournir un soutien matériel au groupe État islamique. Mais il leur a donné des peines plus légères pour coopération avec le gouvernement.
D'autre part, un commandant du groupe État islamique qui avait été condamné en Italie pour activité terroriste a été arrêté au Soudan. C'est ce qu'a annoncé un membre du Parlement italien. Il s'agirait du Tunisien Abou Nassim, de son vrai nom Moïse Fezani, qui commandait jusqu'à récemment les combattants djihadistes basés près du port de Sabratha dans le nord-ouest de la Libye. Après avoir vécu une bonne partie de sa jeunesse en Italie, où il était arrivé en 1989, Nassim avait combattu en Afghanistan et en Syrie avant de s'établir en Libye en 2014, selon les services de renseignement.
Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir sauvé hier 550 migrants en Méditerranée au cours de 5 opérations pendant lesquelles ils ont aussi recueilli 5 corps. Toutes ces opérations ont concerné des migrants entassés sur des radeaux gonflables et se trouvant dans les eaux situées entre la Libye et l'Italie, ont annoncé les gardes-côtes italiens dans la nuit de lundi à mardi. Depuis le début de l'année, plus de 4200 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée dans de telles conditions.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, réaction fort mitigée après les deux sélections faites jusqu'ici par le président élu Donald Trump pour deux postes clés à la Maison-Blanche. Si la nomination du chef du Parti républicain Reince Priebus au secrétariat général de la présidence est plutôt conventionnelle, celle de Steve Bannon au poste de stratège en chef a valu des critiques à M. Trump. M. Bannon dirigeait, avant de se joindre à la campagne, le site Breitbart, une plateforme de l'extrême droite où des vues pro-nationalisme blanc et antisémites ont souvent été exprimés. À noter que des milliers de manifestants continuent de protester dans plusieurs grandes villes américaines contre l'élection surprise de M. Trump, qui a souligné que ces manifestants ne le connaissent pas vraiment.
Le président Barack Obama a donné hier une conférence de presse à la Maison-Blanche, la première depuis la victoire surprise du républicain Donald Trump sur sa candidate, la démocrate Hillary Clinton, la semaine dernière. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Le président a dit que son successeur se rendra très vite compte de la dure réalité quand la bonne rhétorique utilisée pendant la campagne se heurtera aux défis qu'il devra relever. M. Obama, qui a reçu jeudi dernier à la Maison-Blanche Donald Trump, croit avoir découvert une chose que beaucoup ne soupçonnent pas.
I don't think he is ideological.
Je ne crois pas qu'il est un idéologue. Je crois qu'au bout du compte, c'est un pragmatique.
That can serve him well.
Selon le président Obama, cela peut être utile à M. Trump à partir du moment où ce dernier a de bonnes personnes autour de lui et qu'il sait clairement où il va. Faisant le bilan de sa gestion, M. Obama s'est dit plutôt satisfait, notant que l'économie était sur le point de sombrer dans une dépression quand il a accédé au pouvoir en 2009. Concernant ceux qui s'opposent à Trump, il leur a rappelé que c'est la démocratie qui est ainsi. Le président a quitté Washington hier pour son dernier voyage à l'étranger, avec des escales en Grèce, en Allemagne et au Pérou. Un des messages que je serai en mesure de porter est, a dit M. Obama, l'engagement de M. Trump à l'égard de l'OTAN et de l'Alliance transatlantique. Donald Trump n'a cessé de fustiger pendant la campagne les accords internationaux signés par Barack Obama, notamment celui sur le nucléaire iranien. Un bon exemple justement de l'écart entre la rhétorique et la réalité, a dit M. Obama. Il a soutenu que Téhéran respecte l'accord avec les États-Unis et 5 autres puissances mondiales. Dès lors, a poursuivi le président, il serait difficile d'expliquer son abrogation, ajoutant que les États-Unis devront alors prendre des sanctions contre les autres pays qui n'auraient pas, eux, dénoncé cet accord.
Les Palestiniens s'élèvent vivement contre deux projets de loi adoptés par le gouvernement israélien. Le premier ouvre la voie à la légalisation de colonies sauvages et le second vise à limiter le volume des appels à la prière musulmane. Des détails avec Chérubin Dorsil.
L'audition a été menée par un procureur équatorien en présence d'une consœur suédoise, Ingrid Enstrin, magistrat et instructeur adjoint dans l'enquête visant l'Australien de 45 ans. La Suède et l'Équateur ont négocié pendant des mois les conditions de cet interrogatoire.
Les deux textes ont été adoptés par la commission ministérielle des lois et doivent être encore votés par le Parlement israélien. Le texte sur les colonies sauvages, ces implantations illégales aux yeux de la loi israélienne, concerne la Cisjordanie occupée. Le texte sur les appels à la prière s'appliquerait pour sa part aux mosquées en Israël et dans les territoires annexés comme le Golan syrien et Jérusalem-Est. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit favorable à la limitation du volume des appels à la prière comme l'ont fait de nombreuses villes en Europe et dans divers endroits dans le monde musulman. L'autorité jordanienne en charge des lieux saints, le Waqf de Jérusalem, a dénoncé une décision raciste et une violation dangereuse de la liberté de culte. Le président palestinien Mahmoud Abbas, de son côté, a mis en garde contre une telle mesure. Le Hamas dénonce pour sa part une provocation flagrante à l'encontre de tous les musulmans et une ingérence inacceptable dans leur culte.
Les forces américaines et la CIA, selon une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale, pourraient avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan, surtout entre 2003 et 2004. Il y est dit que les forces américaines auraient infligé à au moins 61 détenus des actes de torture, traitements cruels, des atteintes à la dignité de la personne sur le territoire afghan. La CIA aurait, elle, soumis à la torture au moins 27 détenus en Afghanistan et dans les centres secrets de détention en Pologne, en Roumanie et en Lituanie pendant la même période. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a promis de décider de façon imminente si elle doit ou non demander l'autorisation d'ouvrir une enquête exhaustive sur la question.
Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, accusé de viol en Suède, a donné lundi pour la première fois sa version des faits à la justice à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est réfugié depuis 2012. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. La Minute Éco.
Une quinzaine de banques kenyanes sont en passe de se rallier à M-Visa, le moyen de paiement mobile du fournisseur américain pour des transactions entièrement digitalisées. M-Visa permet aux utilisateurs de régler leurs achats via leurs applications bancaires sur leur smartphone en scannant le code QR associé aux produits des magasins qui ont accepté d'adopter le système Visa. Ils permettent aussi d'envoyer gratuitement de l'argent à des particuliers. 1500 commerces locaux ont également déjà adopté le système. En Tunisie, trois groupes marocains s'intéressent à la reprise de 35% du capital d'Ami Assurance. Il s'agit d'Atlanta Assurance, une filiale du conglomérat Olmarcom, Saham Assurance et Wafa Assurance, dont la maison mère Atijarifa Wa Bank possède une filiale bancaire et une compagnie d'assurance vie en Tunisie. Fondée en 2003, Ami Assurance occupe actuellement la troisième place sur le marché tunisien et est cotée sur la bourse de Tunis. Elle a annoncé un bénéfice net de 5,80 millions de dollars en 2015, en hausse de 108% par rapport à 2014. Enfin, 500 millions de dollars, c'est l'enveloppe du fonds Marrakech Investment Committee for Adaptation, MICA, pour financer les projets de lutte contre le réchauffement climatique. Il vient d'être lancé par le Maroc en partenariat avec le fonds GARF, Beya Capital, le Fonds mondial pour l'environnement et plusieurs institutions philanthropiques. C'est le premier mécanisme de financement de l'adaptation mis sur pied en collaboration avec des investisseurs privés.
Les sports à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Victoire canadienne au Tour du Rwanda.
Ah oui, le Canadien Guillaume Boivin s'est imposé lors de la première étape du Tour du Rwanda ce lundi entre Kigali et Ngoma. Au bout des 96 km, le Canadien de l'équipe Cycling Academy Team s'impose non loin de la frontière tanzanienne au sprint devant deux Érythréens, Solomon Zemenfes et Tesfom Okuba Mariam. Boivin est deuxième au classement général à une petite seconde du leader rwandais Joseph Areruya. Ce mardi, la deuxième étape entre Kigali et Karungi.
Rien ne va plus chez les Bafana Bafana.
La Fédération sud-africaine de football a annoncé la suspension du sélectionneur national Chakes Mashaba pour cause d'indiscipline. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le sélectionneur des Bafana Bafana n'a pas vu ses relations avec sa fédération s'améliorer malgré la victoire contre le Sénégal 2-1 samedi. Évoquant un regrettable incident, la fédération a annoncé la suspension du technicien puisque l'intéressé aurait pris plus d'une heure pour se rendre en conférence de presse après la victoire de ses hommes. C'est son adjoint Owen Dagama qui sera sur le banc tout à l'heure pour l'amicale face au Mozambique.
Le football ivoirien en deuil.
Oui, Laurent Pokou est décédé dimanche des suites d'une longue maladie. L'ex-international ivoirien avait 69 ans. Quadruple champion de Côte d'Ivoire, sextuple vainqueur de la Coupe de la Côte d'Ivoire avec la SEC Abidjan. Pokou a longtemps détenu le record de buts marqués lors de la CAN avec 14 réalisations en deux éditions. Il a fallu attendre 2008 et Samuel Eto'o pour voir ce record s'envoler. Mais Pokou reste le seul joueur de l'histoire de la compétition à avoir inscrit un quintuplé sur un match. C'était contre l'Éthiopie en 1970. La Côte d'Ivoire l'avait emporté 6-1. Pokou a reçu son plus bel hommage de la part de Pelé qui disait de lui en 1972 « J'ai trouvé mon successeur, il s'appelle Laurent Pokou ». Il n'a qu'un défaut, il n'est pas brésilien. Et Idrissa, je vous rappelle qu'une minute de silence sera observée ce soir à Lens lors du match amical entre la France et la Côte d'Ivoire. Enfin avec vous, les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Orlando, Indiana, 69-88. Dallas, New York, Knicks, 77-93. Oklahoma City, Detroit, 88-104. Boston, New Orleans, 105-106. Philadelphia, Houston, 88-115. Miami, San Antonio, 90-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président Macky Sall du Sénégal est le premier chef d'État africain à venir à Washington depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Idriss Fall a profité de sa présence ici pour recueillir la réaction du leader sénégalais à l'élection du milliardaire new-yorkais.
Pour ce qui concerne l'élection de M. Donald Trump, je voudrais renouveler mes félicitations pour son élection à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est le choix souverain du peuple américain. Ce choix doit être respecté. Donc, en tant que tel, ce que je peux dire, c'est que le Sénégal, qui est un pays allié des États-Unis depuis très longtemps, souhaite poursuivre la même coopération. Et j'espère que notre politique de coopération avec les États-Unis va être maintenue dans les prochaines années.
Durant sa campagne, il a quand même tenu des propos très peu rassurants concernant les musulmans.
Oui, le monde entier a suivi la campagne de M. Trump. Cela a suscité des réactions vives qui étaient compréhensibles. Mais je crois que les paroles d'un candidat ne correspondront certainement pas aux actes d'un président. Parce que le candidat, c'est quelqu'un qui est à la recherche des suffrages, qui peut essayer de plaire à l'électorat, bon, qui essaye de faire du marketing, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Parfois, peut-être que ça ne va pas être du tout les actes que le président va poser, parce que tout acte qu'il posera aura une conséquence immédiate et les réactions vont suivre immédiatement. Et aucun pays ne peut se permettre de se mettre au banc de la communauté internationale, fût-il les États-Unis d'Amérique. Attendons de voir. Donnons-lui quand même une présomption d'innocence et permettons qu'il s'installe et qu'il pose des actes avant que vraiment nous puissions nous apesantir davantage sur ce qu'il va faire ou ne va pas faire.
Vous êtes musulman, vous habitez une région en Afrique de l'Ouest qui subit de plus en plus des attaques terroristes. Est-ce que vous pensez que la réponse que les États de la sous-région apportent à ce moment, à ce phénomène, est suffisante pour combattre le terrorisme?
Je dois dire que les musulmans, on le constate partout dans le monde, sont les premières victimes du terrorisme. Qu'il s'agisse du Pakistan, de l'Afghanistan, de tous ces pays comme l'Irak, la Syrie, la Libye, la Tunisie, bref, le Nigeria et aujourd'hui le Mali, plus les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les grandes victimes du terrorisme, en vérité, sont les musulmans. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter la caractérisation et la stigmatisation faite aux musulmans par rapport au terrorisme. Il faut bien que tout le monde comprenne que musulmans ne veut pas dire terroristes. Maintenant, pour en revenir aux pays africains, ils font de leur mieux pour faire face à cette menace qui a surpris. Parce que les pays africains étaient dans d'autres combats, le combat pour le développement de leur pays, le combat pour maîtriser la faim et la malnutrition. Aujourd'hui, il faut rajouter de nouveaux défis sécuritaires qui coûtent extrêmement cher pour des pays africains qui aussi pendant de nombreuses années n'ont pas pu mettre leur service de sécurité et de défense à niveau. Parce qu'il y avait eu des politiques d'ajustement structurel qui les empêchaient de se doter de moyens militaires. Donc, il faut quand même qu'on reconnaisse les efforts fournis par nos pays africains qui, bon an, mal an, essayent de contenir la menace, mais ils ont besoin d'un soutien, du soutien de la communauté internationale. Quand un pays comme les États-Unis a été frappé tel qu'il l'a été le 11 septembre, ce n'est pas des pays comme les nôtres qui peuvent se targuer d'avoir des dispositifs antiterroristes qui puissent fonctionner à merveille. Mais on essaye de faire de notre mieux. Mais il est clair qu'il faut une grande solidarité internationale pour arriver à bout de ce phénomène.
Le président Macky Sall du Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, bientôt, un nouveau Premier ministre issu de l'opposition, c'est pour mettre en application l'accord politique du 18 octobre dernier sur le report de la présidentielle. Mais le rassemblement autour d'Étienne Tshisekedi a rejeté cet accord et exige le départ de Joseph Kabila à l'expiration de son deuxième mandat le 20 décembre. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles le coordonnateur du mouvement Filimbi, Floribert Anzulini.
Nous sommes vraiment assez tristes de constater que nos inquiétudes de départ sur le glissement sont malheureusement en train de se confirmer. En complicité, encore une fois, malheureusement, avec certains leaders politiques qui se présentaient comme étant de l'opposition, qui ont été simplement récupérés par la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, donc, on arrive à une solution qui n'en est véritablement pas une, parce que le véritable problème de la crise congolaise n'a jamais été un problème technique sur l'organisation des élections, mais bien un problème lié au départ de l'actuel président à la fin de son mandat le 19 décembre. Donc ce gouvernement n'aura aucun impact ou vraiment très peu d'impact positif sur la suite de la crise. Donc très clairement, ce gouvernement ne règle absolument rien. La population congolaise, croyez-moi, est déterminée à agir pour empêcher que ce coup d'État constitutionnel soit matérialisé le 19 décembre. Je pense même que ça risque d'aggraver la situation.
Le rassemblement autour de Tshisekedi ne reconnaît pas cet accord.
Je pense que M. Tshisekedi se comporte comme la population congolaise. Le véritable débat aujourd'hui porte sur le départ du président Kabila à la fin de son mandat. Si aujourd'hui nous acceptons, et le président Tshisekedi également, que le président Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de son mandat, clairement, nous acceptons de briser notre constitution, nous acceptons de la violer, nous acceptons de fonctionner en dehors d'une règle sur laquelle la grande majorité des Congolais s'était accordée. Si dans 6 mois, le président Kabila et sa majorité reviennent en disant bah « Écoutez, nous avons besoin d'un autre accord », qu'est-ce qui pourra finalement empêcher qu'un autre accord vienne se mettre en place pour que le président Kabila se maintienne définitivement au pouvoir ? Donc non, je pense que la position du président Tshisekedi est même assez responsable. Il dit ceci, il dit « Aujourd'hui, on nous a mis dans une situation difficile ». Il n'est plus possible d'organiser les élections dans les délais. Nous sommes d'accord de discuter avec nos frères de la majorité pour trouver un cadre, une solution à cette situation que vous avez créée, vous la majorité. Mais la seule condition, c'est que la responsabilité qui incombe au président Kabila soit clairement actée et que le président Kabila quitte le pouvoir au plus tard le 19 décembre en tant que garant de la Constitution. Nous disons oui. Très bien, nous pouvons trouver un cadre pour organiser l'élection présidentielle dans le délai le plus court possible, en 2017. Mais très clairement, le président Kabila ne peut plus continuer à diriger la République démocratique du Congo pendant la période qui va précéder cette élection.
Il y a donc ce bras de fer entre la majorité et une grande partie de l'opposition et la société civile. Quelles sont les perspectives selon vous ?
C'est un bras de fer entre, j'aimerais le présenter autrement, c'est un bras de fer entre la majorité de la population congolaise et une minorité de personnes autour d'un individu et qui sont surtout en train de tromper cet individu et de lui donner l'impression que avec des petits calculs politiciens, il pourra gérer la situation, il pourra calmer la population, ce qui ne sera pas possible. Les perspectives, malheureusement, aujourd'hui, écoutez, après le passage de la mission du Conseil de sécurité, nous pensions que, peut-être, par miracle, le président Kabila allait pouvoir, justement, avoir un sursaut. Malheureusement, vous l'avez peut-être suivi, celui qui représentait, en tout cas, le diplomate anglais, a immédiatement tweeté après la rencontre qu'ils ont eue avec le président Kabila, qui leur a fait comprendre que, oui, aujourd'hui, la Constitution ne permet pas de briguer un troisième mandat, mais cette constitution peut être révisée. Donc en sortant de là, ils ont très bien compris que l'intention claire du président Kabila est de sortir du cadre constitutionnel pour pouvoir par la suite modifier la constitution. Les perspectives sont donc au jour d'aujourd'hui très 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 mauvaises, malheureusement. Mais le plus important, c'est la population congolaise, les citoyens congolais qui restent déterminés à barrer la route en fait à cette tentative de prise de pouvoir par la force. Et nous disons qu'après le 19 décembre, le 20 décembre, le président Kabila sera considéré comme un putschiste.
Floribert Anzolouni, joint à Bruxelles.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
3 ans après le début des violences à Bangui, des centaines de familles vivent toujours dans des camps de fortune, craignant encore pour leur sécurité. Freeman Sipila, sur le site des déplacés de l'aéroport Bangui Mpoko.
Le camp des déplacés de l'aéroport Bangui Mpoko reste l'un des plus grands sites de la capitale malgré l'annonce de sa prochaine fermeture par le gouvernement. Malgré le retour progressif de la stabilité à Bangui, plusieurs centaines de familles vivent encore dans ce camp de fortune. Valentin est fonctionnaire au secrétariat général du gouvernement. Lui, sa femme, ses 7 enfants et ses 3 petits-enfants ont passé 3 années ici dans la zone numéro 1 de ce site, en dépit des tentatives de sortie.
Vivre dans de pareilles conditions, c'est dramatique, mais on ne peut rien faire parce que c'est sûrement la sécurité. Moi, j'ai eu quand même la chance d'être fonctionnaire, mais je ne peux pas joindre les deux bouts parce que je n'ai plus de maison. J'ai tenté de louer, mais là où je vais louer aussi, il y a les attaques à main armée, donc je suis obligé de me baser ici à Poco.
Le gouvernement et les organisations humanitaires œuvrent sur un projet de retour volontaire de ces personnes à leur domicile pour certains. D'autres seront délocalisés sur un site aménagé dans le 5e arrondissement. La seule préoccupation présente sur toutes les lèvres, une garantie de sécurité.
Je vous dis, les gens qui sont là, ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent. Hein, même si aujourd'hui l'État donne 1 million à chacun. Je vous dis que après 5 jours, après une semaine, ces gens-là peuvent retourner ici s'il n'y a pas la sécurité.
À la coordination de la zone numéro 1, les responsables sont aussi préoccupés par cette question de sécurité. Le gouvernement et la MINUSCA leur ont fait des promesses, mais eux attendent des actions concrètes. Brisquevin d'Agbinon, point focal Wesh dans la coordination de la zone 1.
Et le gouvernement, ces derniers temps, ils sont présentés ici dans la zone pour voir, pour recenser les déplacés et pour voir comment faire pour qu'ils regagnent leur demeure respective. On est aussi en attente pour voir ce qui va se déclencher. Voilà. Et nous voulons ce que la sécurité revienne. Ça, c'est la première condition. Parce qu'on peut nous donner des choses, mais voilà, ça, c'est la question de vie. Hein. Si on retourne là-bas, voilà, si on perd nos vies, voilà.
Pour le gouvernement, des projets pour des solutions durables au problème des déplacés sont en vue. Bientôt, le site de Poco sera fermé. Sylvain Demango, chargé de mission au ministère des Affaires sociales et de la Réconciliation.
Il faut savoir que le gouvernement travaille déjà, le ministère travaille, par rapport au retour des déplacés internes. Il y a certains ledgers qui ont été fermés. Il y a ledger de l'aéroport Bangui Poco qui sera bientôt fermé. Il y a un programme pour le retour de nos compatriotes, soit ceux qui ont encore des maisons, qu'on puisse réhabiliter les maisons afin qu'ils regagnent leurs maisons. Ceux qui n'ont pas de maisons, il est prévu de leur trouver les moyens, peut-être de location pendant certains temps, le temps de construire leur maison. Donc il y a un programme.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Cameroun, les avocats anglophones menacent de cesser toute activité juridique si les lois de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ne sont pas traduites en langue anglaise. Pour rappel, l'anglais et le français sont les langues officielles du Cameroun. Cependant, les anglophones estiment être négligés. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka.
Depuis près d'un mois, les avocats anglophones sont en grève. Parmi leurs revendications, l'affectation hors des zones anglophones des magistrats et juges francophones qui ne maîtrisent pas l'anglais. Selon eux, la justice ne peut être appliquée si les magistrats et les plaignants ne se comprennent pas. Ils dénoncent aussi le fait que certains textes du droit camerounais n'existent qu'en langue française, ce qui est contraire à la constitution du pays qui prévoit que tout document officiel doit exister dans les deux langues officielles. Raison pour laquelle ces avocats appellent à une traduction complète en langue anglaise du droit camerounais concernant les lois de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les avocats anglophones réclament aussi sa traduction en anglais. À la suite des menaces de boycott des audiences par les avocats, le gouverneur du Nord-Ouest, l'aile de l'Afrique, Deben Tchofo Adolphe, a interdit toute manifestation publique, ce qui a provoqué un mouvement d'humeur chez les avocats qui ont manifesté dans les rues de Bamenda. Sur les autres motivations liées à cette manifestation, Maître Harmony Bobga, avocat au barreau du Cameroun, s'exprime.
We are gentlemen, we are peaceful, and we have never meant any violence.
Malgré ces interdictions de manifestation, les avocats anglophones continuent les marches dans les rues, pas seulement à Bamenda, mais aussi dans les autres villes anglophones du pays, telles Boya, Limbe et Kumba. Les autorités administratives tentent en vain de calmer l'ardeur des manifestants en leur assurant que le gouvernement travaille sur le dossier. Tout compte fait, les avocats anglophones continuent la révolte et appellent à la création d'un barreau anglo-saxon au Cameroun. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.